La crise de l'économie capitaliste, datée du 23 octobre 2013. L'économie capitaliste n'est pas sortie de la crise actuelle qui a démarré par la crise financière des années 2007-2008. Non seulement la longue dépression commencée dans les années 1970 est devenue la forme d'existence du capitalisme mondial, mais dans la succession de récessions et de reprises momentanées, les périodes de récession sont de plus en plus longues, de plus en plus profondes, et les reprises n'en sont pas vraiment. C'est parfaitement illustré par cette dernière période de 5 ans où l'effondrement du système bancaire a certes été évité, mais sans qu'il y ait une véritable reprise de l'activité productive depuis. L'indicateur le plus sûr de l'incapacité de l'économie à amorcer une sortie de crise, le plus important aussi du point de vue des classes exploitées, est le niveau du chômage nettement plus élevé qu'avant le krach dans la quasi-totalité des pays industriels, en particulier dans les pays impérialistes les plus riches d'Europe et d'Amérique. La récession s'exprime même dans les statistiques concernant les PIB, produit intérieur brut, qui mélangent pourtant indistinctement productions et services, y compris les plus inutiles, croissance des richesses réelles et envolée des richesses artificielles issues de la spéculation, notamment dans l'immobilier. En cette année 2013, la zone euro n'a pas retrouvé son niveau de production du début de 2008. Elle compte 7,8 millions de chômeurs de plus. Et derrière ces données concernant l'ensemble de cette zone, il y a des reculs plus catastrophiques encore, le Portugal étant revenu 10 ans en arrière, la Grèce 12. Dans les économies capitalistes du temps de Marx, les crises économiques jouaient le rôle de régulateurs pour adapter aux besoins solvables les capacités de production capitaliste qui avaient tendance à croître sans limite sous l'aiguillon de la concurrence. Cela a été de tout temps une forme de régulation anarchique, intervenant après coup et qui se traduisait par un gigantesque gaspillage de biens matériels et de forces de travail. Mais une fois atteint le point le plus bas de la crise, une fois éliminées les entreprises capitalistes en surnombre sur le marché, une fois que le taux de profit se remettait à augmenter, se dessinait le processus de reprise. Les investissements se mettaient à croître, les embauches aussi. Le chômage diminuant, la consommation augmentait également. Après une période de baisse tendancielle du taux de profit à la fin des années 1960, celui-ci a bien été rétabli au milieu des années 1980. Depuis ce tournant, le taux de profit reste à un niveau élevé, même si c'est avec des variations conjoncturelles. Mais ce taux de profit a été obtenu, pour ainsi dire exclusivement, par une aggravation de l'exploitation. Il s'agit bien entendu du taux de profit global, ce qui n'indique rien de la répartition de l'ensemble du profit entre les entreprises de secteurs en pointe et celles qui périclitent, font faillite ou se font absorber par d'autres, ni entre les grosses et les petites entreprises, ni surtout entre l'activité productive et la finance. Les parts respectives des salaires et des revenus du capital n'ont cessé d'évoluer sur une longue période dans le sens d'une augmentation de la part des revenus du capital au détriment de celle des salaires. Mais ce n'est qu'un des aspects de l'évolution, au détriment des classes exploitées. Dans les pays impérialistes développés, et en particulier dans les pays d'Europe, la bourgeoisie a accordé, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début de la crise dans les années 1970, une série d'avantages aux appareils syndicaux et à la bureaucratie syndicale, intégrée comme jamais dans l'appareil d'État, à travers une multitude de postes dans une multitude d'organismes. La bourgeoisie a concédé un certain nombre d'avantages collectifs concernant de plus larges couches de la classe ouvrière, essentiellement celles que Lénine avait appelées en son temps l'aristocratie ouvrière, entre guillemets, en matière d'accès à l'éducation, la gratuité de celle-ci, en matière de retraite, de couverture maladie, de différentes formes de « protection sociale », entre guillemets, auxquelles s'ajoute la prise en charge partielle par l'État de services publics qui concernent l'ensemble des classes populaires. Système hospitalier public, transport collectif, etc. Avantages qui, pour limiter qu'ils aient été, ont progressivement amélioré la condition ouvrière. Au lendemain de la guerre, ces concessions devaient beaucoup à la crainte que la Deuxième Guerre mondiale soit suivie, comme la première, d'explosions révolutionnaires. Les mesures dites de protection sociale prises dans la foulée de la libération, entre guillemets, par De Gaulle, dont se vante le PCF, avaient cette crainte comme motivation. La relative croissance économique pendant deux décennies a assuré la pérennité provisoire de ces concessions. Elles ont assuré une certaine stabilité sociale dans les pays impérialistes, financés pour l'essentiel par le pillage des pays pauvres et la surexploitation de leur prolétariat. Mais dès les années 1970, confrontée au ralentissement économique et aux récessions récurrentes, la bourgeoisie n'eut de cesse de revenir sur ses concessions. La régression concerne tous les domaines. L'éducation est de moins en moins gratuite, les soins aussi, les médicaments sont de plus en plus mal remboursés, l'âge de la retraite recule, et le montant des pensions aussi. La prise en charge des handicapés diminue quand elle ne disparaît pas complètement pour certaines catégories, etc. Tout cela pèse sur les conditions d'existence des exploités. Cela a été une évolution à long terme, facilité par l'affaiblissement du mouvement ouvrier, sur laquelle la bourgeoisie ne reviendra que si elle se sent de nouveau menacée. La conséquence directe en est que les inégalités sont plus grandes que jamais, en tout cas depuis les années 1920 et la folie spéculative qui avait précédé le jeudi noir de 1929. Un récent rapport du Crédit Suisse, octobre 2013, après le constat réconfortant pour les classes possédantes du « record historique » entre guillemets de la richesse mondiale, constate également que, sur la base des revenus globaux, en augmentation, l'écart ne cesse de se creuser entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus faibles. D'un côté, non seulement la fortune d'un nombre restreint de milliardaires atteint des sommets et le nombre de millionnaires en dollars s'est considérablement accru, de l'autre, le nombre de ceux qui sont tombés sous le seuil de pauvreté, même dans les pays les plus riches, bat des records. Rien que ces chiffres indiquent, dans leur sécheresse, l'évolution des rapports de classe en faveur de la bourgeoisie. Si la notion de seuil de pauvreté entre guillemets, n'indique que le sens général de l'évolution et ne permet guère de comparaison entre pays, tant les instruments de mesure sont différents, elle a un certain sens à l'intérieur d'un même pays. Dans le cas de la France, ce seuil est de 977 euros par mois. D'après l'INSEE, il y a en France 8,7 millions de personnes qui dispose de moins de 977 euros par mois pour vivre. En d'autres termes, la paupérisation frappe non seulement les chômeurs, mais aussi une partie des retraités et une fraction significative de travailleurs en activité, temps partiel, intérim ou simplement bas salaires légaux ou illégaux. Cette paupérisation due au mécanisme même de la crise de l'économie capitaliste est encore aggravée par le quasi-blocage, voire la suppression de certaines allocations et par la croissance incessante des dépenses supplémentaires découlant des reculs en matière de soins, d'allocations. Le chômage en hausse a reconstitué, même dans les pays impérialistes, cette « armée industrielle de réserve » entre guillemets, dont parlait Marx et qui donne à la bourgeoisie des moyens pour peser sur les salaires et sur les conditions de travail de l'ensemble du prolétariat. Malgré le niveau confortable de leurs taux, les profits ne sont retournés que partiellement dans la production. Les investissements productifs restent très bas sur une longue période. L'expression même a fini par recouvrir pêle-mêle le rachat d'autres entreprises, voire des rachats spéculatifs suivis de reventes par compartiment, quand il ne s'agit pas de simples placements financiers. Mais les investissements, entre guillemets, de cette nature, s'ils contribuent à la concentration croissante des capitaux, ne conduisent pas au développement de la production et à des embauches. Ces concentrations de capitaux sont pour ainsi dire toujours accompagnées de « restructuration », entre guillemets, c'est-à-dire de l'abandon de capacités de production et surtout de licenciements massifs. Les multiples formes de spéculation qu'engendre le gonflement de la finance ne sont pas en elles-mêmes chose nouvelle. La spéculation est aussi ancienne que le capitalisme et en constitue un des aspects. Des vagues spéculatives ont souvent précédé et accompagné les crises de l'économie capitaliste. Mais ce qui marque le capitalisme d'aujourd'hui, c'est à la fois la durée de la période, plusieurs décennies, où la finance semble se détacher de l'activité productive, vivre sa propre vie, inventer sans cesse de nouveaux instruments de plus en plus sophistiqués, et les conséquences que cette durée dans l'évolution impose à toute la vie économique. Nous ne rappelons pas ici la longue liste des « produits financiers » entre guillemets, qui, quelle que soit leur origine ou leur fonction, deviennent tous des instruments de spéculation. Nous en serions d'ailleurs incapables, non seulement parce qu'on en invente sans cesse de nouveaux, mais aussi parce que les spéculateurs eux-mêmes y perdent leur latin. Depuis le début de la phase impérialiste du capitalisme, les actions et les obligations privées et publiques ont été les instruments privilégiés des spéculations auxquelles s'est ajoutée, depuis la disparition de l'or comme moyen de paiement privilégié dans le commerce international, la spéculation à grande échelle sur les taux de change. Disons seulement que les nouveaux produits financiers apparus au cours des deux ou trois dernières décennies sont pour ainsi dire tous basés sur l'idée de servir de protection contre les aléas de pertes liés à la spéculation. Mais en la matière, les combinaisons sont infinies. On peut s'assurer contre l'insuffisance de fiabilité de son assurance et ainsi de suite. Mais tous ces papiers d'assurance s'échangent, se vendent et s'achètent et deviennent autant d'instruments sur lesquels on peut spéculer. Une variation infime du cours d'une action, d'une obligation, d'un taux de change peut ainsi être démultipliée et se transformer en avalanche financière. Conséquence de fond de cette évolution, le profit financier se valorise par rapport au profit industriel en créant une pompe aspirante, déplaçant une part croissante du capital vers la finance, faisant en sorte que la financiarisation s'auto-alimente. Et plus important encore, il pénètre toute la vie économique. Il la modifie à tous les niveaux. La période d'accentuation de la financiarisation a pris son envol au début des années 1970 et à partir de la rupture de tout lien entre le dollar et l'or et de la fin du système monétaire international dit de Bretton Woods. Sa durée a modifié l'économie capitaliste de façon indélébile et sans doute irrémédiable. Notons qu'avant même l'écroulement du système monétaire international et l'introduction des changes flottants, l'invention des euro-dollars, entre guillemets, avait déjà annoncé la marche vers la financiarisation. Le placement des pétrodollars en fut la première expression majeure. La financiarisation croissante a profondément affecté la gestion même des entreprises, de plus en plus dirigées pour favoriser la valorisation de leurs actions en bourse. Elle a modifié les liens entre les différents secteurs de l'économie. Ainsi, la demande de matières premières est faussée par le fait qu'elle a de moins en moins de rapport avec les besoins de l'industrie et de plus en plus avec les mouvements erratiques de la spéculation, etc. Le banquier Jean-Michel Nolo, ex-membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, AMF, dans son livre consacré à la crise financière, observe. Ouvrez les guillemets. Qu'il s'agisse des matières énergétiques, des métaux ou des produits agricoles, la volatilité de ces marchés reste toujours aussi importante. Comment oublier l'épisode caricatural des années 2007-2009 où le prix du pétrole avait doublé en un an de $70 le baril en juillet 2007 à $145 en juillet 2008 avant d'être divisé par 3 dans les mois suivants à $40 en mars 2009. Toutes les matières premières sans exception avaient suivi à peu près le même mouvement, quel que fût le produit concerné. Fermez les guillemets. Nous avons cité dans un récent numéro de Lutte ouvrière une enquête du New York Times décrivant comment une grande banque comme Goldman Sachs ne se contente même plus de spéculer sur une hausse du prix de l'aluminium, mais provoque la hausse de prix sur laquelle elle parie. Au moment de l'enquête, elle stockait elle-même un quart de l'aluminium disponible sur le marché. Et le New York Times, qui n'a pas la réputation d'être une publication d'extrême gauche, d'affirmer, ouvrez les guillemets, les manipulations des cours sur les marchés du pétrole, du blé, du coton, du café et autres ont rapporté des milliards de profits aux banques d'investissement comme Goldman, JP Morgan Chase et Morgan Stanley, alors que les consommateurs étaient obligés de payer plus cher pour remplir d'essence leur réservoir, allumer la lumière, ouvrir une canette de bière ou acheter un portable. Fermez les guillemets. Un rapport de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, publié le 17 septembre 2012, considère que les interventions des institutions financières représentent 85% des interventions sur les matières premières, actes d'achat et de vente. Quant aux dérivés, ces certificats d'assurance hautement spéculatifs, le total de leur prix représente 20 à 30 fois la valeur de production des matières premières correspondantes. Ce rapport affirme clairement que, ouvrez les guillemets, la financiarisation est la cause principale de la volatilité des prix du pétrole et des matières premières. Fermez les guillemets. Tout devient matière à spéculer, y compris la pauvreté engendrée par la crise elle-même. C'est ainsi que l'endettement des ménages a pris des proportions considérables, en particulier aux États-Unis. Une façon pour le capital financier de résoudre, entre guillemets, les difficultés résultant du blocage des salaires. Les salaires ne suffisent pas, on peut toujours emprunter, d'autant que les banques ont une multitude de ficelles pour faire des offres qu'on ne peut pas refuser tellement les taux sont bon marché, au début. Une des expressions les plus graves de cette économie d'endettement a été les fameux prêts hypothécaires américains qui ont été à l'origine de la crise dite des subprimes en 2007. La pression pour pousser à l'endettement les familles aux revenus modestes qui souhaitaient se loger s'est conclue par le drame individuel de centaines de milliers de familles expulsées de leur logement par les banques au fil des échéances qu'elles étaient incapables d'honorer. Les expulsions continuent encore aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'ensemble de l'économie, cette course à l'endettement s'est conclue d'abord par la crise de l'immobilier américaine. Puis, en raison du procédé dit de « titrisation », entre guillemets, et de la dispersion dans toutes les grandes banques du monde de titres de dette comportant une part de la dette hypothécaire américaine, cette dette hypothécaire a été le facteur déclenchant de la crise financière qui dure encore. La dette hypothécaire n'est cependant qu'une composante de l'endettement privé. En y ajoutant les différentes formes de crédit à la consommation, la dette des ménages est passée de 65% du PIB des États-Unis en 1995 à 103% en 2013. Cela signifie la croissance des prélèvements directs de la finance sur les ménages les plus modestes, sans même parler du surendettement qui touche, y compris en France, de plus en plus de monde, une part croissante des revenus des classes populaires en particulier, des salaires est consacré au paiement des intérêts de la dette et grossit la sphère financière. Ce phénomène, qui s'enracine dans le fonctionnement même de l'économie capitaliste d'aujourd'hui, est relayé également par les États qui participent à ce mécanisme en prenant des mesures facilitant les déplacements de capitaux à l'échelle du monde, d'un pays à l'autre, d'un secteur d'activité à un autre, permettant l'accès direct de toutes sortes d'entreprises, financières ou pas, sur le marché financier et en mettant des sommes de plus en plus grandes à la disposition du système bancaire. Mais ce faisant, les États à leur tour s'endettent toujours davantage. Pour aider les banques, ils doivent faire appel au marché financier, c'est-à-dire en particulier aux mêmes banques. La boucle est bouclée. Là encore, le système s'auto-alimente. Plus les États aident le système bancaire, plus ils se ligotent eux-mêmes vis-à-vis des banques. Et les dettes des États, les dettes souveraines, entre guillemets, non seulement sont devenues à leur tour des produits financiers, entre guillemets, spéculatifs, mais sont à l'origine de plusieurs vagues majeures de spéculation, notamment celles qui ont ébranlé l'euro à plusieurs reprises. L'ensemble de cette évolution de la financiarisation à l'économie d'endettement et au fonctionnement économique à crédit démolit même cette forme de régulation après coup qui caractérise le fonctionnement de l'économie capitaliste. Un économiste bourgeois aussi classique que Maurice Allais, prix Nobel d'économie, avait averti, à l'époque où la financiarisation prenait son envol, que, ouvrez les guillemets, aucun système d'économie de marché ne peut fonctionner correctement si la création incontrôlée ex nihilo de nouveaux moyens de paiement permet d'échapper, au moins pour un temps, aux ajustements nécessaires. Fermez les guillemets. Euphémisme pour dire que l'injection permanente d'instruments monétaires par les États et par le système bancaire, même si elle permet de repousser, au moins pour un temps, entre guillemets, le rééquilibrage de l'économie par la crise, ne fait que repousser les échéances en les aggravant. Le capitalisme est par nature une économie de marché. Mais avec la financiarisation de la vie économique, ce sont, et de loin, les marchés financiers qui dominent la vie économique. Mais c'est un marché particulièrement volatile, et la multiplication des instruments financiers le rend encore plus volatile. Le fin du fin est le trading haute fréquence, spéculation par ordinateur permettant de tirer profit d'une variation de cote sur quelques fractions de seconde. Cette variante moderne de l'antique moulin à prière des moines tibétains a failli provoquer accidentellement, il y a peu, une panique boursière. Les décisions spéculatives, qu'elles portent sur les monnaies, sur des actions ou des obligations, sur des dettes d'État ou sur n'importe quel instrument financier, sont basées sur des paris. La moindre déclaration de président de la Réserve fédérale américaine ou de celui de la Banque centrale européenne, la moindre crise politique, comme en Italie les pantalonnades récentes de Berlusconi, voire le moindre mouvement d'humeur des financiers basé sur l'interprétation de tweets échangés, l'analyse de ces tweets est en train de devenir, paraît-il, une spécialité pleine et entière en matière de divination financière, les échos, conduisent à des soubresauts économiques plus ou moins virulents. La crise bancaire de 2008 a été précédée par une succession de crises financières, de krachs chaque fois plus violents. Ouvrez les guillemets. Crise boursière d'octobre 1987. Crack immobilier au début des années 1990, crack obligataire en février 1994, faillite de la banque anglaise Barings en 1998, faillite du fonds spéculatif LTCM qui avait failli se transformer en crise boursière généralisée, crack internet en 2001-2003, crack provoqué par des subprimes en 2007-2009, crise de l'euro à partir de l'hiver 2010. Fermez les guillemets. Comme les a énumérés dans son livre le banquier Jean-Michel Nolot. Et d'ajouter, ouvrez les guillemets, depuis l'année 2000, le monde a vécu plus de la moitié du temps en période de krach, c'est-à-dire dans l'angoisse d'un effondrement du système financier mondial avec toutes ses conséquences pour l'économie réelle. Fermez les guillemets. Le point culminant de ces soubresauts financiers a été atteint en 2008 lorsque la circulation de l'argent entre banques s'est pratiquement arrêtée en raison de la méfiance des unes vis-à-vis des autres, poussant le système bancaire au bord de l'effondrement. Devant le spectre d'un effondrement comparable à celui du Jeudi noir de 1929, tous les États ont réagi en mettant à la disposition des banques une quantité colossale de liquidités pour relancer la machinerie. Ils ont mis plusieurs mois pour y parvenir. Ils ont réussi à éviter l'effondrement, mais toute l'activité économique en a subi les contre-coups, la crise bancaire provoquant ce qu'aux États-Unis on a désigné sous le nom de « longue récession », car elle a duré 18 mois, la période la plus longue depuis la Grande Dépression qui avait suivi 1929. Depuis cette date du 15 septembre 2008, jour de la faillite du mastodonte bancaire Lehman Brothers, et une première injection massive de liquidités dans le système financier dans les semaines suivantes, ces injections n'ont jamais cessé. Après avoir injecté dans le système financier plus de 2 000 milliards de dollars le 15 septembre 2008, puis une somme du même ordre le 2 novembre 2010, le Monde du 10 octobre 2013, la Banque centrale américaine s'est installée dans une politique permanente d'aide en invoquant la nécessité, ouvrez les guillemets, d'éviter la faillite des établissements bancaires, puis de relancer l'activité, fermez les guillemets. Le Monde. Sur le premier point, c'est réussi au-delà de l'espérance des banquiers. Sur le second, pas du tout. Cette politique consiste de la part de la Fed, banque centrale américaine, à abaisser le taux directeur de ses prêts à un minimum historique, 0,25%, ce qui signifie prêter pour ainsi dire gratuitement aux banques les sommes qu'elles peuvent reprêter en faisant leurs bénéfices. Par ailleurs, la Fed continue à racheter massivement des titres, y compris des crédits hypothécaires pourris, en y consacrant 85 milliards de dollars par mois. La Banque centrale européenne, BCE, agit de même. La principale différence entre la BCE et la Fed américaine tient à ce que les traités européens et surtout les intérêts divergents des 17 États qui composent la zone euro interdisent certaines procédures. Mais les dirigeants des États et de l'économie, entourés d'une armada de juristes et de conseillers, savent manipuler les traités et les règlements de la BCE pour faire, bien que souvent avec du retard, ce qu'exige la finance. Le Figaro du 23 septembre, tirant le bilan des 5 ans qui se sont écoulés depuis la crise du système bancaire, estime à 5 000 milliards de dollars les sommes mobilisées par les banques centrales des pays impérialistes pour sauver les banques, entre guillemets. Et ce journal conservateur d'ajouter avec un certain réalisme, ouvrez les guillemets, la faillite de Lehman Brothers a ouvert une grande crise du capitalisme mondialisé dont la sortie s'étendra sur plus d'une décennie pour revenir au plein emploi et désendetter les États. Un quart de siècle et une guerre mondiale furent nécessaires pour surmonter la grande déflation. Fermez les guillemets. Les chefs d'État, affolés, ont juré à une des nombreuses réunions du G20 qui ont suivi la crise bancaire qu'on ne pouvait pas laisser les mains libres à cette douzaine de grandes banques qui dominent la vie financière mondiale. Ils ont déclaré qu'il fallait au moins les réguler, car elles menaçaient gravement l'économie dans son ensemble. Il ne reste rien de ces grandes résolutions. En dehors des ennuis judiciaires de quelques traders pris la main dans le sac, transformés en boucs émissaires par leurs banques, et de la condamnation de quelques crapules de plus grosse envergure, comme Madoff, qui a eu le tort de voler ses pairs, les mesures prises se sont limitées à bien peu de choses en matière de régulation. Les banques sont censées notamment garder des fonds propres un peu plus conséquents que dans le passé, comme si cela pouvait leur permettre de faire face à une vague spéculative massive. Les quelques mesures prudentielles qu'on leur impose sont facilement contournées par les banques, d'autant plus que les organismes de régulation sont des émanations des banques elles-mêmes, à la fois juges et parties. Et puis, ces règlements ne concernent que les banques officiellement considérées comme telles. Mais à côté d'elles fleurissait déjà avant la crise actuelle le, ouvrez les guillemets, « shadow banking », fermez les guillemets, la « finance de l'ombre », entre guillemets, c'est-à-dire des organismes financiers qui ne sont pas tenus par les règles bancaires. Cette finance de l'ombre, et notamment les « hedge funds », entre guillemets, fonds spéculatifs, a été fortement affectée en 2008 par l'effondrement des titrisations subprimes. Quelques-uns des hedge funds ont fait faillite, mais les sommes qu'ils manipulent représentent encore l'équivalent du PIB américain. Selon le FSB, Forum de stabilité financière, ou Conseil de stabilité financière, l'ensemble des capitaux gérés aux États-Unis se répartissent ainsi. 22% pour les banques, 27% pour les compagnies d'assurance et les fonds de pension, 11% pour les institutions financières publiques, 5% pour la banque centrale et 35% pour la « finance de l'ombre », entre guillemets. Mais la distinction même entre banques réglementées et celles qui échappent à toute réglementation est fallacieuse. Non seulement les unes et les autres sont étroitement liées, mais elles constituent les deux formes d'existence des mêmes conglomérats financiers. Un des arguments des porte-paroles des banquiers, qui considèrent comme inacceptables même les très timides tentatives de réglementation des accords dits de Bâle III, est que cette réglementation n'aboutira qu'à déplacer les capitaux des banques respectant les règles vers les « banques de l'ombre », entre guillemets. Au-delà de ce débat feutré entre bourgeois cherchant des panacées contre les « accès de fièvre », entre guillemets, de leur système bancaire, dont font partie les envolées hypocrites sur les paradis fiscaux, du point de vue de la population, toutes les banques sont des banques de l'ombre, entre guillemets. La seule solution pour dissiper l'ombre est la levée totale du secret bancaire. Le seul moyen de réguler le système bancaire est l'expropriation de ses propriétaires et actionnaires et sa collectivisation sous le contrôle de la population. Le bilan des 5 ans écoulés depuis le début de la crise financière est clair. Les sommes colossales injectées par les États dans les circuits financiers ont encore accru les transactions spéculatives dans des proportions colossales. Quelques exemples significatifs. D'après une enquête de la BRIC, Banque des règlements internationaux, en avril 2010, il s'échangeait plus de 4000 milliards de dollars chaque jour sur le marché des changes. 3 ans après, la somme s'élève à 5300 milliards de dollars. Ce montant est sans commune mesure avec le total des échanges internationaux de biens et de services. Ouvrez les guillemets. Au milieu des années 1970, les volumes sur le marché des changes représentaient 20% environ du PIB mondial, soit 1/5. Aujourd'hui, les volumes sur le marché des changes s'élèvent à 15 fois le PIB mondial et à 65 fois le commerce mondial, alors même que leur principale finalité est de permettre le règlement des changes et la couverture des risques associés, fermez les guillemets, NOLO. Autre exemple, ouvrez les guillemets, la croissance des marchés boursiers est obligataire. La capitalisation boursière mondiale est passée d'un peu moins de 9 000 milliards de dollars fin 1990 à 57 000 milliards fin 2010. Fermez les guillemets. En revanche, une fraction infinitésimale de ce montant qui dépasse l'entendement est consacrée au développement de la production. Ce qui fait dire à Nolo que, ouvrez les guillemets, aujourd'hui, le rapport de la finance à l'économie réelle est à certains égards plus préoccupant qu'au cours des années 1920. L'économie est mondialisée et la masse des capitaux en circulation n'a plus rien à voir en termes de montant et de vitesse de circulation transfrontalière. Et tellement de déséquilibres se sont accumulés depuis une trentaine d'années, tout particulièrement ces 15 dernières années. Fermez les guillemets. Constat ô combien préoccupant en effet. À ceci près que la finance fait partie de l'économie réelle, entre guillemets, du capitalisme d'aujourd'hui. C'est précisément cela qui fait de ce que son évolution n'a pas d'issue. La production est toujours stagnante dans les pays européens comme aux États-Unis. Avec des hauts et des bas momentanés, le chômage s'est accru. La quantité d'argent en circulation est sans précédent, la volatilité des marchés financiers aussi. Les investissements productifs en recul de 1,2% en 2012, même d'après les chiffres officiels, le seront encore dans les mêmes proportions en 2013. Pendant ces 5 ans, l'économie a connu de nouvelles crises financières. La crise récurrente de l'euro a rebondi, tantôt en Grèce, tantôt à Chypre, et menace de rebondir ailleurs. Tout récemment, en mai 2013, les pays émergents ont failli être touchés gravement lorsque le président de la FED, Ben Bernanke, a laissé entendre seulement, que la Banque centrale américaine se préparait à ralentir sa politique dite de, ouvrez les guillemets, quantitative easing, fermez les guillemets, c'est-à-dire de fabrication de dollars supplémentaires pour acheter de la dette fédérale et racheter des crédits hypothécaires aux banques. Rien que cette menace, sur laquelle Bernanke n'a pas tardé à reculer, a suffi pour que des capitaux américains placés au Brésil, en Indonésie, en Turquie, etc., commencent à être rapatriés aux États-Unis, ébranlant ainsi la monnaie de ces pays. Menace qui pouvait être d'autant plus prise au sérieux que la voie par laquelle la crise financière américaine d'octobre 1929 s'était étendue à d'autres pays, en particulier à l'Allemagne, un des pays les plus gravement frappés par la crise, avait été le rapatriement en urgence de capitaux américains. Une autre conséquence grave de cette politique en faveur du système financier est le gonflement du bilan des banques centrales. Dans le cas de la Banque centrale américaine, d'après Le Monde, son bilan est passé entre 2006 et 2013 de 5% à 20% du PIB américain. Ouvrez les guillemets. Jamais le bilan d'une banque centrale n'aura gonflé dans des proportions aussi énormes, fermez les guillemets, au dire de l'analyste d'une grande banque. Mais tout le monde financier sait que, dans les titres rachetés aux banques par les banques centrales, il y a une grande proportion de titres pourris. Les banques centrales elles-mêmes deviennent plus vulnérables à la spéculation. Cela ne pourra qu'exacerber les mouvements spéculatifs, misant cette fois sur la fiabilité des banques centrales et par conséquent sur les monnaies qu'elles émettent. Tenir le système financier sous perfusion permanente, comme c'est le cas dans tous les pays impérialistes, implique de vider les caisses des États. Les États consacrent une part croissante de leur budget à rembourser leurs dettes avec des intérêts. Car si les banques centrales prêtent de l'argent au système bancaire quasiment pour rien, le système bancaire, et plus généralement ce fameux marché financier qui domine la vie économique, prête aux États moyennant des intérêts plus ou moins élevés en fonction de la confiance dans leur capacité à rembourser. C'est au nom de ces dettes qu'on impose dans tous les États des politiques d'austérité plus ou moins féroces, mais dont les conséquences sont partout de même nature. Diminution des sommes consacrées aux services publics utiles à la population, diminution du nombre de fonctionnaires, y compris dans les secteurs essentiels à la vie de la population, comme la santé et l'éducation. C'est au nom de ces dettes d'État et de cette obligation, entre guillemets, de les rembourser, que tous les gouvernements serinent à leur population comme une vérité incontestable, que l'on augmente les impôts qui pèsent essentiellement sur les classes populaires. En France, l'entrée de nouvelles catégories de ménages dans la tranche inférieure de l'impôt sur le revenu, la hausse de la TVA prévue pour le 1er janvier 2014, l'augmentation des impôts locaux, etc. C'est au nom de cela que l'on introduit la notion de « rentabilité » entre guillemets dans tous les domaines des services publics les plus vitaux, comme les hôpitaux publics, etc. Aussi multiples que soient les manières de tirer de l'argent de la population, leur signification de classe est claire. Il s'agit d'un gigantesque transfert des classes exploitées vers le capital financier, c'est-à-dire vers la grande bourgeoisie. Et cette colossale pompe à finances, entre guillemets, s'auto-alimente. Le journal économique Les Échos, du 17 octobre 2013, sous le titre, ouvrez les guillemets, « La zone euro toujours prise dans la spirale de la dette », fermez les guillemets, constate que les États membres de cette zone seront obligés, pour payer leurs dettes, d'emprunter entre 850 et 900 milliards d'euros sur les marchés l'an prochain. Il constate en même temps que, ouvrez les guillemets, si les déficits budgétaires s'amenuisent, les montants à rembourser sur les dettes passées vont augmenter. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que cela signifie en clair ? C'est qu'en imposant une politique plus ou moins draconienne à leur population pour réduire leur déficit budgétaire, les États auront moins besoin de faire de nouveaux emprunts dans le futur, mais qu'en revanche, les intérêts à payer sur les dettes du passé deviennent de plus en plus lourds. Et Les Échos de citer l'exemple de l'Allemagne, dont la situation financière est « particulièrement flatteuse », entre guillemets, prétend le quotidien. Berlin n'émettra que 6 milliards d'euros de dettes nouvelles, mais il devra emprunter 150 milliards pour rembourser les dettes anciennes. Cela signifie aussi que la pression sur les classes exploitées continuera à augmenter, quels que soient les sacrifices qu'on leur a imposés dans le passé. Cette pression financière sur les classes les plus pauvres agit dans le sens de l'aggravation de la crise économique. La cause fondamentale de toute crise économique et l'insuffisance de la demande solvable de la classe ouvrière par rapport aux capacités de production des entreprises capitalistes. Mais au nom du remboursement de la dette, les États contribuent à diminuer la capacité de consommation des classes populaires, c'est-à-dire à restreindre encore le marché. Le rôle de la finance, et plus précisément des banques, est de « socialiser les capitaux » entre guillemets pour les drainer vers la production capitaliste afin de permettre la reproduction sans interruption du capital. Cela fait longtemps, depuis le développement de l'impérialisme, que les banques n'ont plus le rôle modeste d'intermédiaire et que le capital financier, en fusion avec le capital industriel, domine l'ensemble de la vie économique. Cela fait longtemps aussi que, pour reprendre l'expression de Lénine, le capital financier, les monopoles, ont fusionné avec l'État capitaliste en subordonnant ce dernier au roi de la finance. Cette fusion prend, avec la financiarisation croissante, une signification supplémentaire. L'État capitaliste devient de plus en plus l'exécuteur des basses œuvres du grand capital. Pour sauvegarder et augmenter ses profits, ce dernier fait donner l'État et ses moyens pour récupérer de quoi compléter les profits directs tirés de l'exploitation. Le parasitisme du grand capital est aujourd'hui sans précédent. Bien des économistes qui se situent dans le cadre de l'économie capitaliste, c'est-à-dire sur le terrain de la bourgeoisie, constatent la contradiction entre ces politiques d'austérité et l'obstacle supplémentaire qu'elles constituent à une éventuelle reprise économique. Certains observent aussi que la vis sans fin que constitue l'endettement des États et l'impératif de rembourser les dettes se heurteront nécessairement à l'incapacité de certains États à rembourser. D'autant que plus leurs dettes augmentent, plus leurs emprunts sur les marchés financiers leur coûtent cher. C'est cette dernière crainte qui a conduit les États de la zone euro à mettre en place un, ouvrez les guillemets, mécanisme européen de stabilité, fermez les guillemets, MES, un fonds de secours destiné à prendre le relais du Fonds européen de stabilité financière, destiné à financer les plans de sauvetage des États au bord de la faillite. En d'autres termes, pour garantir aux banques qu'elles seront remboursées, même en cas de défaillance d'un État qu'elles auront poussé à la faillite par l'endettement. Pour assurer la permanence des prélèvements des grandes banques sur la société, on fera payer l'ensemble des classes exploitées de la zone euro. Mais malgré les sommes considérables dont disposera ce mécanisme, quelques 700 milliards d'euros, il ne pourra pas faire face à la faillite d'un État de la taille de l'Espagne ou de l'Italie. Ce mécanisme européen de stabilité, entre guillemets, n'est pas seulement une façon de mutualiser, entre guillemets, entre États de l'Union européenne, leurs obligations à l'égard des banques. C'est aussi un nouveau champ d'activité livré à la finance, car le MES se financera sur le marché financier en émettant des obligations. Les Échos du 9 octobre titraient, ouvrez les guillemets, « Les investisseurs plébiscitent le nouveau fonds de secours européen », fermez les guillemets, en constatant que la souscription à la première tranche d'émission de ces obligations a atteint 21 milliards d'euros en trois quarts d'heure. Forcément, il vaut mieux avoir la garantie d'une institution européenne que celle de l'État grec ou irlandais. Mais cela élargit en même temps les possibilités de spéculation. On pourra désormais miser sur un nouveau cheval, attrayant dans ce tiercé pour banquiers qui se déroule par période sur le champ de course de la zone euro. Malgré ce bricolage financier, la zone euro reste un foyer de déclenchement potentiel d'une crise financière plus grave que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Car si la BCE, le FMI et les dirigeants des principaux pays impérialistes d'Europe ont réussi jusqu'à maintenant à colmater les brèches, Grèce, Irlande, Chypre, etc., ils n'ont rien changé au problème fondamental qui est que, dans la zone euro, il y a bien une monnaie unique, mais pas un État unique. C'est un conglomérat d'États, chacun avec sa fiscalité, sa politique économique, son système salarial, et surtout, chacun défendant les intérêts de sa propre bourgeoisie, intérêts qui coïncident, ou pas, avec ceux des autres bourgeoisies. Le seul pouvoir supra-européen qui a émergé au fil des crises est la BCE, qui devient par là même de plus en plus indépendante des États. Mais dans les étroites limites, tout de même, l'indépendance de la Banque centrale européenne signifie seulement qu'elle représente de plus en plus les intérêts des deux principales puissances impérialistes de la zone euro, l'Allemagne et la France, contre les 15 autres. Mais la BCE n'a pas le pouvoir de régler les désaccords entre ses principales puissances impérialistes. Une monnaie qui ne s'adosse pas à un pouvoir d'État est condamnée à subir des tentatives périodiques venant des marchés financiers qui parient sur les États en y plaçant des capitaux ou au contraire en les retirant, en baissant les taux d'intérêt des prêts ou en les relevant. Les États-Unis eux-mêmes constituent un autre foyer d'où la crise peut de nouveau flamber. Si la perfusion ininterrompue de la Banque centrale américaine fait tourner la machinerie financière à bon régime, c'est-à-dire en permettant au capital financier de réaliser un profit élevé, les dirigeants des États, comme leurs conseillers économiques, savent parfaitement que les liquidités versées dans l'économie continuent comme avant d'aller vers la spéculation et qu'elles alimentent donc de futures bulles financières. Ils le savent d'autant plus que, comme le constatait Le Monde du 20 septembre, ouvrez les guillemets, les investissements sont principalement repartis dans l'immobilier où le redémarrage n'est dû qu'aux aides de la Fed. Fermez les guillemets. En clair, le risque est que, comme en 2001-2003 pour Internet ou en 2007-2008 pour l'immobilier, éclatent de nouvelles bulles spéculatives sur telle ou telle matière première ou encore une fois sur l'immobilier. La grande préoccupation des dirigeants est ce que la presse appelle le ouvrez les guillemets, problème de la sortie de crise, fermez les guillemets. Comment la maîtriser? Est-ce que l'arrêt de versement d'argent quasi gratuit au système financier ne va pas provoquer le cataclysme bancaire que les États ont voulu éviter en s'engageant dans cette politique? Personne ne sait aujourd'hui, et surtout pas les dirigeants de la vie économique, comment les États-Unis sortiront de cette quadrature du cercle. Les têtes pensantes du petit monde des économistes sont aussi perdues que leurs donneurs d'ordre de l'économie ou de la politique. L'anecdote de l'attribution du prix Nobel d'économie en est l'illustration. Un média sur Internet, slate.fr, titrait, ouvrez les guillemets, « Le Nobel d'économie 2013 est aussi surprenant que les marchés financiers », fermez les guillemets. En effet, ce prix a été partagé entre trois économistes. L'un, Shiller, est récompensé pour avoir souligné dans ses travaux la menace de bulles financières et pousse dans le sens d'une régulation. L'autre, Fama, affirme, ouvrez les guillemets, « Je ne sais même pas ce qu'une bulle signifie », fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, « Les marchés sont rationnels », fermez les guillemets, et est un chaud partisan de la dérégulation. Le troisième, Hansen, plus prudent, se réfugie dans les mathématiques en développant une méthode d'analyse statistique. Ses réponses absolument contradictoires sont commentées par un autre économiste, ouvrez les guillemets, « Cela résume l'état de la science économique moderne », fermez les guillemets. En effet, bien des formulations de Jean-Michel Nolo dans son ouvrage déjà cité, consacré à la crise financière, témoignent de la lucidité d'un banquier qui est au cœur du système. Ouvrez les guillemets. L'évolution du monde depuis une trentaine d'années, le sentiment que nous sommes entrés dans un univers entièrement nouveau et que nous sommes impuissants à peser sur le cours des choses, fermez les guillemets. Lucidité qui l'amène à parler de, ouvrez les guillemets, marche vers la catastrophe, fermez les guillemets, et à constater que, ouvrez les guillemets, le culte de l'argent conduit inévitablement le monde à des déséquilibres majeurs, à une forme d'anéantissement, fermez les guillemets. Et tout cela pour aboutir à des conclusions du genre, ouvrez les guillemets, réduire l'emprise des financiers sur les matières premières, taxer les transactions financières, mettre fin aux paradis fiscaux, faire la lumière sur toutes les transactions sans exception, fermez les guillemets, mais contrôlées par qui ? Ouvrez les guillemets, encadrer, voire et interdire le trading haute fréquence, une distribution du crédit plus équitable, remettre les agences de notation à leur vraie place, le conseil aux investisseurs. Fermez les guillemets, pour culminer avec le souhait pieux de, ouvrez les guillemets, remettre les banques au service de l'économie réelle. Fermez les guillemets. Mais qui et comment ? L'effarement de la bourgeoisie, de ses banquiers et de ses intellectuels devant la monstruosité de leur économie et les menaces qu'elle recèle est à la mesure de la gravité de la crise. Les plus radicaux parmi les économistes qui inspirent les altermondialistes et qui défendent une politique alternative dans le cadre du capitalisme rêvent d'un capitalisme débarrassé de la financiarisation ou en tout cas de certaines de ses conséquences. L'annulation de la dette de tel pays pauvre ou de tel autre fait partie depuis longtemps des revendications de ces milieux. Certains, comme l'anthropologue et économiste Graeber, altermondialiste, pousse cette idée plus loin en évoquant l'idée d'un moratoire sur les dettes à l'échelle internationale. Un « jubilé » entre guillemets, réclame-t-il, faisant allusion à une solennité publique de la religion juive à l'occasion de laquelle, affirme le dictionnaire Robert, ouvrez les guillemets, les dettes étaient remises, les héritages rendus à leurs propriétaires et les esclaves mis en liberté. Fermez les guillemets. Le capitalisme du XXIe siècle fouillant dans les traditions bibliques pour trouver un remède à son mal incurable. De fait, le système bancaire européen a dû en passer par là en réduisant une partie de la dette grecque, car même les usuriers les plus féroces savent qu'il vaut mieux ne pas tuer le débiteur. Mais si cela est déjà arrivé quelquefois dans l'histoire récente du capitalisme mondial d'annuler certaines dettes, l'idée de généraliser cela est totalement utopique dans le cadre du système capitaliste où le capital financier se confond avec le capital industriel et dont les profiteurs sont les mêmes. Pour important que soit la financiarisation de l'économie dans la vie du capitalisme d'aujourd'hui, et donc le poids des prélèvements croissants de la finance sur la plus-value globale, ce qui compte pour la classe ouvrière, c'est le fait fondamental que la plus-value vient de l'exploitation, quel que soit son bénéficiaire. Dans un texte consacré il y a bien longtemps au « arrêt et progrès du marxisme », fermez les guillemets, Rosa Luxembourg écrivait « Du point de vue pratique de la lutte de classe », ouvrez les guillemets, « le grand problème théorique, c'était la formation de la plus-value, c'est-à-dire l'explication scientifique de l'exploitation ainsi que de la tendance à la socialisation de la production, autrement dit, l'explication scientifique des bases objectives de la révolution socialiste », fermez les guillemets, et d'ajouter, ouvrez les guillemets, « la façon dont la plus-value se répartit entre les différents groupes capitalistes et les vols que la concurrence occasionne dans la production pour cette répartition, tout cela n'a pas un intérêt immédiat pour la lutte de classe du prolétariat », fermez les guillemets. Pour mettre fin à la toute-puissance de la finance, il faudra plus que des changements dans les règles du jeu du fonctionnement actuel du capitalisme. Il faudra s'engager dans le bouleversement des rapports de production par la « lutte de classe du prolétariat », entre guillemets, poussée jusqu'au bout, jusqu'à la prise du pouvoir et l'expropriation de la bourgeoisie. Une nouvelle organisation économique et sociale ne pourra émerger que de la destruction du capitalisme. Les économistes les plus lucides, même du point de vue de la bourgeoisie, ou les mieux disposés à l'égard des victimes de ce système, se heurtent au mur d'acier de leur propre choix de classe. Seule la classe révolutionnaire mobilisée dans le cadre d'une révolution et hautement consciente des intérêts de la société peut imposer au système bancaire, aux banquiers, c'est-à-dire à la bourgeoisie, de faire ce qu'elle ne fera pas de son plein gré, débarrasser le plancher. C'est en conquérant le pouvoir que le prolétariat peut se donner les moyens d'engager la révolution sociale qui mettra fin à la propriété privée des moyens de production et à tout ce qui en découle, les marchés, la concurrence, la domination de la finance. Parlant des conditions objectives de la révolution sociale, Trotsky avait affirmé en son temps, dans le programme de transition, que, ouvrez les guillemets, les prémices objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres, elles ont même commencé à pourrir, fermez les guillemets. Le fascisme, la guerre mondiale, le minuit dans le siècle, entre guillemets, illustraient à l'époque ce que signifiait cette pourriture. Le capitalisme a rebondi au prix de 60 millions de morts et peut-être plus de la Deuxième Guerre mondiale. Il est de nouveau en train de s'enfoncer dans la pourriture. Ouvrez les guillemets, tout dépend du prolétariat, c'est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire, ouvrez, fermez les guillemets, ajoutez Trotsky. Reconstruire cette avant-garde révolutionnaire, redonner à la classe ouvrière la conscience de sa tâche historique et la confiance en sa capacité de la mener à bien est, comme au temps de Trotsky, la seule voie pour sortir de l'impasse dans laquelle le capitalisme enferme l'humanité.